Radio Okapi.
Les journaux, Gisèle Cage à la présentation. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal d'information à la une aujourd'hui. Alors que les défis liés au maintien de la paix en RDC persistent, Kinshasa et les Nations Unies renforcent leur coopération pour améliorer l'efficacité de la réponse humanitaire. La Première ministre Judith Suminwa et le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, ont échangé sur les difficultés financières et logistiques qui entravent les opérations de la mission onusienne dans les zones contrôlées par des groupes rebelles. Une étudiante de Kisangani révolutionne l'hygiène avec un dispositif automatique de lavage de mains. Présentée lors de la cérémonie de collation de grade, cette invention issue de l'Institut supérieur pédagogique marque une avancée technologique locale en matière de santé publique. Ituri face à la crise, quelle réponse pour les enfants déplacés et les réfugiés? Michel Meta, responsable de l'UNADI, revient sur les enjeux humanitaires et éducatifs dans une province fragilisée par la violence et l'afflux de réfugiés sud-soudanais. Et nous ouvrons cette édition avec une information majeure dans le monde d'e-sport. La brillante victoire des Léopards de la RDC en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. La RDC s'est imposée ce vendredi face au Soudan du Sud sur le score de 4-1. Dès la première période, les Congolais ont pris l'avantage avec un doublé de Cédric Bakambu aux 14e et 37e minutes avant que Nathanaël Mboukou n'alourdisse le score dans le temps additionnel de la première période. Johan Wissa a ramené le Léopard à 4-1 à la 57e minute et 11 minutes plus tard, les Sud-Soudanais ont réduit le score par l'entremise d'Ekir Majak. Avec donc cette victoire, les Congolais réconfortent leur première place avec 16 points en attendant la réception mardi prochain des Sénégalais qui jouent ce vendredi à domicile contre le Soudanais avec lesquels ils ont le même nombre de points, soit 12 chacun, avec le goal différence favorable aux Sénégalais. À Kinshasa, la diplomatie et sécurité au cœur d'une rencontre de haut niveau. La Première ministre Judith Suminwa a reçu ce jeudi Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. Les échanges ont porté sur les défis persistants auxquels fait face la mission onusienne en République démocratique du Congo. Parmi les préoccupations soulevées, les contraintes budgétaires et les difficultés d'accès aux zones sous contrôle rebelle qui freine l'assistance aux populations déplacées. Écoutons à présent un extrait de l'intervention de Jean-Pierre Lacroix, sélectionné par Jean Gando Kabongo.
Les efforts humanitaires doivent être financés à hauteur des besoins. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas et vous avez vu les conséquences dramatiques de la baisse des ressources. Deuxièmement, les parties doivent être poussées à respecter les engagements. Et dans les zones où nous avons des restrictions, nos collègues humanitaires et la MONUSCO ont des restrictions de liberté de mouvement, d'accès aux populations en besoin, tout doit être fait. Tous les acteurs, le Conseil de sécurité doivent se mobiliser pour que nous puissions avoir cette liberté de mouvement et ces ressources nécessaires pour porter assistance à ces milliers de déplacés parce que c'est une situation intolérable. La conclusion que je tire en tout cas de cette réunion, c'est que nous avons d'abord reçu l'expression d'un soutien continu de la part de Madame la Première Ministre, de son gouvernement, de soutien à la coopération avec les Nations Unies, un soutien à la MONUSCO, soutien à notre travail commun. Je crois que c'est très important parce que nous sommes en RDC. Notre interlocuteur de tous les jours, notre interlocuteur de référence, ce sont les autorités congolaises. Et donc ce climat de confiance, ce travail conjoint est plus que jamais fondamental pour faire avancer les efforts de paix et aboutir à des résultats concrets.
Après ces entretiens avec la Première ministre Judith Suminwa et le président de la République Jean-Pierre Lacroix a poursuivi ses consultations en rencontrant plusieurs figures de l'opposition congolaise. Au centre des échanges, la quête d'une paix durable, notamment dans l'est du pays, et la possibilité d'un dialogue national inclusif pour renforcer la cohésion et la stabilité. Un reportage signé Jude Mister Bilanda.
C'est sa deuxième visite en 6 mois en République démocratique du Congo. Dans la matinée du jeudi 4 septembre, les hauts responsables onusiens ont rencontré au siège de la MONUSCO plusieurs figures de l'opposition, dont Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabound, ainsi que des représentants des partis de Moïse Katumbi, Matata Ponyo et d'Eli Sesanga. Ces échanges ont porté principalement sur le projet d'un dialogue national inclusif. Jean-Marc Kabound a souligné que ces dialogues devraient inclure les Congolais en exil, tandis que les camps Fayoulou a exhorté les Nations Unies à appliquer la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui exige les retraits du M23 dans les zones qu'il occupe et la fin du soutien rwandais à ses groupes armés. Martin Fayoulou a également plaidé pour que le prochain mandat de la MONUSCO évolue d'un simple mandat de maintien de la paix à un mandat robuste afin de rétablir la sécurité dans l'est du pays.
Direction Litori où la situation sécuritaire demeure alarmante. Jeudi, 2 embuscades attribuées aux miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire CRP, alliés du groupe armé Zaïre, ont été tendus sur la route nationale 27 dans le territoire de Djougou. Les bilans ont fait état d'un mort et de plusieurs biens des valeurs emportées. Selon des sources sécuritaires, les victimes étaient des passagers à bord des véhicules de transport en commun. La personne décédée, elle, revenait d'Ala, dont la région de Fataki est sûre qu'il est à moto. Ces attaques viennent exacerber les tensions identitaires déjà vives dans cette zone. Le point avec Martial Kizabiamungu.
La première embuscade a eu lieu vers 11h locale au village de Linji sur la route nationale numéro 27 dans le territoire de Djougou. Selon des sources sécuritaires, il s'agit de 3 véhicules de transport en commun qui se rendaient de Mangui à Bounia avec des passagers à bord. Ces rebelles ont pillé tous leurs biens des valeurs qu'ils possédaient, y compris d'importantes sommes d'argent. Les mêmes sources indiquent qu'à 13h, un second groupe d'environ 40 hommes armés attendit une autre embuscade de haut niveau du village Sandoukou 1. Ici, ces miliciens proches de Tomalobanga ont tué par balle un opérateur économique qui revenait du village d'Ala où ils étaient allés vendre des haricots au marché de Fataki. Ces assaillants de la CRP ont emporté sa moto et sa cargaison. Ces renégats se sont retirés de la brousse avant l'arrivée de FRDC qui n'ont pu que récupérer les corps de la victime pour les ramener dans sa famille dans le groupement Dina. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au Sud Kivu, la société civile congolaise annonce une suspension partielle dès son appel à la grève à partir de ce vendredi. Ce mouvement lancé il y a 3 jours à Uvira visait à protester contre la nomination du général Olivier Gassita comme commandant chargé des opérations et du renseignement dans la province. La décision de suspendre partiellement la grève s'explique par la volonté de permettre aux habitants de s'approvisionner en produits de première nécessité en attendant les conclusion de la réunion prévue ces jours entre les Wazalendo, les forces vives locales et une délégation gouvernementale venue de Kinshasa. Un reportage signé Ronelin Tibonera.
Le coordinateur provincial de ces structures, Mafikiri Mashimango, explique que ces décisions tiennent compte de la dure réalité que vivent les habitants. Depuis mardi, marchés et boutiques sont fermés. Selon nos sources, les opérateurs économiques craignent d'ouvrir leurs commerces, redoutant des actes de pillage. Malgré la volonté affichée par la société civile, les activités n'ont pas encore repris sur le terrain. Un habitant jaune ce matin décrit une ville toujours sous le choc et envahie par la peur.
En tout cas, cette situation ne doit pas persister. Nous disons non, 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 nous en tant qu'habitants et habitantes d'Ouvira, surtout nous les femmes, nous pleurons beaucoup. Nos enfants n'étudient plus depuis le mardi. Il y a nos activités qui chôme. On ne se déplace plus pour aller dans d'autres zones pour exercer nos activités commerciales. En tout cas, cela nous met dans une confusion totale. Que les autorités prennent une solution valable à ces problèmes qui guettent la ville d'Ouvira actuellement.
Jeudi, le maire d'Ouvira a déploré dans un communiqué les manifestations et a entraîné une paralysie totale des activités dans la ville. Il a assuré aux protestataires que leur colère était entendue et comprise. Ces mouvements de grève perturbent également les activités au port de Kalundu. Ces points stratégiques pour le trafic lacustre entre Ouvira, Kalemie et certains pays voisins de la RDC est actuellement sous le contrôle des Wazalendo selon plusieurs sources locales.
Innovation à qui sont gagnés en marge de la cérémonie de collation des grades académiques et des clôtures de l'année 2024-2025. Une finaliste du département informatique technologie de l'Institut supérieur pédagogique a présenté un dispositif automatique de lavage et de séchage de mains, fruit de son projet de fin d'études. Cette invention a été donc dévoilée devant un public composé notamment du gouverneur ad intérim Roger Ndemba, qui présidait la cérémonie, et du nouveau recteur de l'université de Kisangani, le professeur Mathieu Kirongozi, également président de la conférence des chefs d'établissement de l'ESU dans la Tchopo. Jacques Mukonkole nous en dit plus sur la conception et le fonctionnement de ce dispositif innovant.
Cet appareil de lavage et séchage de mains est une œuvre de l'étudiante Jeanne d'Arc Lombo Edina. Elle est lauréate du département d'informatique technologie du système PADEM à l'ISP Kisangani au cours de cette année académique qui vient de s'achever. Le dispositif mis en place est constitué d'une structure en bois équipée des capteurs de mouvement. L'appareil active automatiquement l'écoulement de l'eau une fois les mains détectées à environ 30 cm, ce qui permet l'évitement de tout contact avec des parois potentiellement contaminées. Les gouverneurs des provinces par intérim, le professeur Roger Ekongo, le recteur de l'université de Kisangani, le professeur Mathieu Kirongozi Bometa, ainsi que le directeur général de l'ISP Kisangani, le professeur Jacques Rivrin Lofemba, ont procédé tour à tour à l'expérimentation de ce dispositif, lequel est susceptible de limiter les risques de contamination, selon la lauréate. Signalons par ailleurs que l'ISP Kisangani est la première institution de l'ESU à pouvoir procéder à la double cérémonie de collation des grades académiques et des clôtures de l'année académique 2024-2025 dans la province de la Tchopo. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Économie, une avancée technologique dans le secteur de paiement numérique. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, a procédé ce jeudi à Kinshasa au lancement officiel de l'application Visa Pay, une initiative portée par Visa RDC. Présentée comme une solution mobile innovante, cette application vise à faciliter les paiements numériques et les transferts d'argent entre le compte en République démocratique du Congo. Selon André Wameso, Visa Pay est une plateforme interopérable et sécurisée, accessible aussi bien aux utilisateurs bancarisés qu'aux non bancarisés. Elle permet de payer, recevoir des paiements, transférer, encaisser de l'argent via les banques et les opérateurs mobiles partenaires. André Wameso est au micro de Jean-Marc Matouaki.
Avant de pouvoir se dire qu'un usager de la route, bien quelqu'un qui viendra pour acheter ses produits, devra attendre que la Banque centrale du Congo emmène des francs congolais vers l'agence ou bien la succursale et aller vers une banque commerciale, et ensuite la personne qui veut acheter le produit doit pouvoir se déplacer vers cette banque pour avoir de la monnaie et faire la transaction, ça ne va plus exister directement. C'est-à-dire que avec la solution digitale, et en l'occurrence Visa Pay, vous aurez directement des sous dans votre application mobile et vous pourrez acheter n'importe quel produit. Et la personne qui vend ces produits va recevoir de l'argent sur son application et avec cet argent, elle pourra épargner, pourra faire elle-même d'autres achats, elle pourra se réapprovisionner auprès de ses fournisseurs. Donc la circulation monétaire va être rendue possible via la digitalisation et ça rentre dans la véritable stratégie de la Banque centrale.
Et pour conclure ce sujet, la directrice générale de Visa RDC, Sophie Kafouti, a souligné que Visa Pay ambitionne de stimuler la croissance économique et de repositionner la RDC comme un acteur régional majeur dans le domaine de la technologie financière. La cérémonie a également été marquée par la présence de François Jurde de Girancourt, vice-président senior en charge de la stratégie chez Visa pour l'Europe de l'Est, l'Europe centrale et le Moyen-Orient et l'Afrique. Il a salué le potentiel transformateur de paiement numérique rendu possible grâce à l'engagement de partenaires locaux. La ville de Goma a été le théâtre de deux incendies jeudi après-midi, provoquant un vent de panique parmi les habitants et mobilisant d'importants moyens d'intervention. Le premier sinistre s'est déclaré en début d'après-midi à la station service Serofouli située sur la route Goma-Sake au niveau de l'entrée président dans le quartier Katoy, commune de Karisimbi. L'incendie, dont l'origine reste encore inconnue, serait survenu lors du remplissage d'un jerrican. Le bilan matériel est lourd. 2 véhicules, 5 bureaux, une maison en bois, la station elle-même ainsi que plusieurs installations du marché voisin ont été réduits en cendres. Heureusement, aucun blessé ni décès n'a été signalé. Grâce à une intervention rapide et coordonnée, les flammes ont été maîtrisées. Les sapeurs-pompiers de la MONUSCO, de la protection civile de Goma et de l'armée indienne déployés dans le cadre de la mission onusienne. Quelques heures plus tard, vers 17h, un second incendie s'est déclaré au quartier Virunga sur l'avenue Moulamba, toujours dans la commune de Karisimbi. 3 maisons en bois ont été consumées. Là encore, les pompiers de la MONUSCO et les équipes locales ont réussi à circonscrire le feu. Direction Matadi, dans la province du Congo central, où la sécurité des vendeurs interpelle les autorités locales. Le bourgmestre de la commune de Matadi appelle les commerçants installés le long de la route nationale numéro 1, notamment en Vuandu, à rejoindre le marché officiel pour leur propre sécurité. Cet appel fait suite à un accident tragique survenu à l'entrée de la ville au niveau du pont Ponzo qui a coûté la vie à 3 personnes. Nana Plurich Mambou nous apporte plus de précisions.
Cet accident s'est produit à 17h hier jeudi au pont Ponzo à l'entrée de la ville de Matadi. Un camion remorque a, à la suite d'une défaillance de frein, percuté les vendeurs et autres motocyclistes qui étaient en stationnement le long de la chaussée. Le bilan fait état de 3 morts et plusieurs blessés. Le bourgmestre de la commune de Matadi attribue ces drames aux vendeurs qui refusent d'intégrer les marchés qui pourtant comptent plusieurs étalages vides.
Il n'y a pas longtemps, j'ai tenté d'aménager l'intérieur des marchés en Voidou. Il y a un petit nouveau marché privé public derrière le marché en Voidou contenant plus ou moins 300 tables. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu utiliser que 20%. Les 80% est vite. Les commerçants ne veulent pas utiliser les marchés. Ils préfèrent rester au long de la route nationale numéro 1. Nous avons même descendu 2 fois avec M. le maire et le commissariat ville de Matadi. Sensibiliser, déloger, saisir même leur petit commerce. 2 jours après, sans retourner. Il y a eu danger d'étiquette et je peux qu'un jour que nous puissions subir des conséquences puisque c'est que nous venons de vivre aujourd'hui.
Matadi, Nana plus riche Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Une mission internationale d'établissement de faits de l'ONU a révélé ce jeudi que les forces de soutien rapide FSR, milice paramilitaire soudanaise en guerre contre l'armée depuis avril 2023, ont commis une myriade de crimes contre l'humanité, notamment dans la ville assiégée d'El Fasher au Darfour. Le rapport cite des actes graves tels que meurtres, tortures, viols, esclavage sexuel, déplacements forcés et persécutions fondées sur l'origine ethnique, le genre ou les opinions politiques. Les enquêteurs accusent également le FSR d'avoir utilisé la famine comme arme de guerre, privant des civils de nourriture, des médicaments et d'aide humanitaire, ce qui pourrait constituer le crime contre l'humanité d'extermination. La mission onusienne pointe aussi du doigt l'armée soudanaise accusée de crimes de guerre et appelle la communauté internationale à agir, notamment par les sanctions ciblées, les soutiens à la Cour pénale internationale et la mise en place d'un mécanisme judiciaire indépendant.
L'invité.
En Ituri, la crise humanitaire continue de priver des milliers d'enfants déplacés d'accès à l'éducation et sur fond des violences armées persistantes. À cette situation déjà alarmante s'ajoute l'arrivée de plus de 21 000 réfugiés sud-soudanais dans les territoires d'Aro, aggravant encore la pression sur les ressources locales. Comment éviter que cette crise ne s'aggrave davantage? Pour en parler, nous recevons dans ce journal Michel Meta, responsable de l'Union des associations culturelle pour le développement de l'Ituri. Il répond aux questions de Jean-Claude Lokidile.
Michel Meta, bonjour.
Oui, bonjour monsieur les journalistes.
Quelle est aujourd'hui l'ampleur de la crise humanitaire en Ituri, notamment en ce qui concerne les enfants déplacés qui n'ont pas repris le chemin de l'école?
Oui, c'est une très grande inquiétude pour notre population de l'Ituri, parce que à Télé, à Iga Barrière, en Centrale, à Lopa, à Nisi, la population a fait un déplacement massif pour leur sécurité, plus vers la ville de Bounia. Et avec les enfants, et avec les femmes, des personnes de troisième âge, mais particulièrement les enfants pour la rentrée scolaire, ça pose déjà un problème. Et ça vient s'ajouter sur plusieurs problèmes qui rongeaient déjà le territoire de Djougou, où il y a plus de 64 sites de déplacés où les enfants presque n'étudiaient pas. Alors, cet événement à ajouter les problèmes dans les problèmes. Ce qui veut dire que maintenant la situation est préoccupante pour les enfants ne peuvent pas aller à l'école, et aussi même la prise en charge de ces enfants et de ces familles qui sont déplacées de Djougou vers la ville de Bounia, qui viennent saturer les cas de déplacés, ça nécessite réellement une intervention. Et pas seulement pour une intervention à terme de nourriture, mais une intervention à terme de prise en charge de ces enfants qui sont l'avenir de la République démocratique du Congo. Le laisser dans la rue, c'est aussi un problème pour notre société et pour notre province de l'Ituri. Nous osons croire que le gouvernement prendra vraiment des mesures nécessaires à ce moment ici, et mesures idoines pour que ces enfants soient récupérés à ce moment, pour que les enfants commencent leur vie normale et leur vie de quotidien.
Vous tirez la sonnette d'alarme sur le sort de milliers d'enfants. Concrètement, quelles sont les situations les plus urgentes que vous observez sur le terrain?
Il faut voir aussi les cas de déplacés dans les territoires du Rumu, particulièrement dans la chefferie de Banya de Tchabi, où il y a eu beaucoup de déplacés, plus dans le cas dans le chef-lieu de la chefferie, à cause de la menace des ADF Nalu. Et c'est, voilà, ces familles jetées dans la rue, et les enfants aussi jetés dans la rue. Nous ne savons même pas comment ces enfants vont reprendre le chemin de l'école. Mais aussi dans les territoires de Haru, il y a eu plus de 21 000 réfugiés sud-soudanais qui ont fui les violences dans leur pays en Ituri, et qui ne sont pas tellement pris en charge. C'est une question qui pèse sur la population. On a déjà des conséquences sur le vécu quotidien de la population de la chefferie de Kakwa et de la chefferie de Kaliko.
Entre les violences armées et l'arrivée des réfugiés sud-soudanais, quel message adressez-vous au gouvernement et aux partenaires humanitaires?
Nous pensons que le gouvernement, surtout à travers le ministère des Affaires sociales et humanitaires, devrait faire un effort de faire un déplacement dans la province de l'Ituri, parce que nous connaissons le mandat passé et n'a même pas fait les déplacements en Ituri. Je pense que mon message, que je pense à travers votre micro, va toucher la ministre de l'Action humanitaire, la première ministre et le chef de l'État, pour que la question de déplacer dans la province de l'Ituri et des réfugiés soit réellement prise en charge, et particulièrement la question des enfants déplacés. Pas parce qu'ils ont la volonté de se déplacer, parce que les conditions ne sont même pas réunies pour qu'ils regagnent leur milieu naturel. En tout cas, il y a urgence que les autorités provinciales, même au niveau national, prennent cette question au grand sérieux.
Michel Meta, je vous dis merci.
C'est à moi de vous remercier sincèrement, monsieur le journaliste.
Michel Meta, responsable de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, a partagé son analyse sur la crise humanitaire et éducative en Ituri. C'est la fin de cette édition. Mise en onde, Billy Landry Betou. Coordination Jude Mystère Bilonda. Présentation Gisèle Cage. Merci de nous avoir suivis à l'écoute de cette édition des 18h. Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux pour plus d'informations et des contenus exclusifs. Très bonne soirée à toutes et à tous.